C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Quant à nous, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette persuasion-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Moi, j'ai confiance en vous dans le Seigneur. Je sais que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la peine. Quant à moi, mes frères, si je proclamais encore la circoncision, pourquoi serais-je encore persécuté? La cause de chute, la croix, serait donc réduite à rien? Qu'ils aillent donc jusqu'à se mutiler, ce qui sème le trouble parmi vous.
Cette section, elle parle de liberté, comme on le voit dans le premier verset. Et on va rapidement commencer par une association d'idées. Si je vous dis « libéré », vous dites « Oh bien, je ne suis pas tout seul ce soir !» Effectivement, libéré, délivré. Je pensais que j'allais être le seul à connaître la référence, mais je vois qu'il y a des aficionados. Ou... Libéré, délivré, c'est la chanson de thème de La Reine des Neiges. Quand j'ai deux enfants de 3 et 4 ans, donc c'est pas possible d'échapper. C'est en robe et c'est avec la chanson. Et là, dans cette chanson, il est question effectivement de liberté. Donnez-moi quelques minutes pour faire le lien avec notre passage. Parce qu'il y en a, il y en a, il y en a. C'est l'histoire de deux sœurs. Et faites semblant, pour ceux qui veulent prendre un peu de distance, que vous ne l'avez pas vue. Hein. Je pense que beaucoup l'ont vue. Mais c'est l'histoire de deux sœurs. Et la sœur aînée, Elsa, découvre assez rapidement qu'elle a des dons de magie. Quand elle touche quelque chose, ça se transforme en neige ou en glace. Et après avoir mis en danger sa sœur, ses parents décident de l'isoler, de garder cela secret et de faire en sorte qu'on limite les dégâts. Mais au moment où elle devient reine, devant les effets et aussi la peur de tous les gens dans le royaume, elle se retire, elle se sent obligée de partir. Elle va sur une montagne et c'est là qu'on l'entend chanter les paroles suivantes. « Cache tes pouvoirs », c'est ce qu'on lui disait, « n'en parle pas, fais attention, le secret survivra ». Et là, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Et dans un premier temps, on prend la liberté comme un épanouissement. Le fait de ne plus avoir des règles qui lui sont imposées. Elle peut vivre ce don qu'elle a reçu librement, sans avoir un carcan d'attente placé sur elle. Mais compte tenu de l'endroit où se trouve la chanson et aussi compte tenu d'autres paroles dans cette chanson, certains ont relevé le fait qu'il n'y a pas seulement des aspects positifs, il y a aussi certains éléments qui semblent plus négatifs. Prenez par exemple le fait qu'elle s'isole du monde de sa sœur. Est-ce qu'elle va le faire indéfiniment? Est-ce qu'elle va se montrer mauvaise vis-à-vis de tous ceux qui viennent à sa recherche, comme on le voit par la suite? Et que dire de ces paroles? Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystères. Le bien, le mal, je dis tant pis. Le mal, le bien, je dis tant pis. Comme si elle pouvait relativiser le mal, le bien, se comporter à sa guise. S'il y a un aspect positif dans le fait qu'elle s'émancipe de certaines règles qu'on lui imposait, d'un carcan, on peut se demander si le scénario ne nous pousse pas à avoir une certaine crainte que cette liberté ne soit pas destructrice pour elle, pour d'autres. Quel lien avec notre passage? Eh bien, d'une part, dans la définition de la liberté que l'apôtre Paul relève, il y a bel et bien une liberté par rapport à des règles qu'on voudrait imposer. Ici, en l'occurrence, la circoncision, on en reparlera. Mais l'autre lien, c'est la question des craintes. Est-ce qu'on doit craindre cette liberté de laquelle l'apôtre Paul parle? Il y a une crainte qui a traversé les âges jusqu'à aujourd'hui et qui probablement était à l'origine de ce que l'apôtre Paul a dû écrire à ce moment-là. L'apôtre Paul a affirmé un peu plus haut que ce n'est pas par l'obéissance à des règles qu'on est déclaré juste devant Dieu, mais simplement par la foi en Jésus. Et voici la crainte. Croire cela, est-ce que c'est finalement dire qu'à partir de là, c'est une autorisation à vivre le mal, le bien, comme on veut? Comme quelqu'un qui dirait, je suis déclaré juste par la foi en Jésus, et à partir de là, le bien, le mal, je dis, tant pis. La réponse qu'apportent les faux enseignants qui sont allés dans ces églises de Galatie, c'est que non, il faut sécuriser cette relation avec Dieu. Pour assurer votre salut en tant que croyant devant Dieu, il va falloir vivre selon certaines règles. Mais l'affirmation de ce passage, l'affirmation de l'apôtre Paul, c'est que la liberté que Christ nous a offerte doit être gardée. Et ceux qui l'entravent doivent être confondus. La liberté que Christ nous a offerte doit être gardée et ceux qui l'entravent doivent être confondus. On aura l'occasion, un peu dans ce passage, mais surtout dans celui de dimanche prochain, de parler de cette question, croire à l'Évangile, est-ce que c'est être libre de faire le bien, le mal? Mais pour le moment, je vous suggère le plan suivant, deux phrases résumées et deux traitements de choc. On commence par deux phrases résumées. C'est le verset 1, en fait. En quelques mots, l'apôtre Paul dit bien, à la fois un résumé de la section qui précède, la section qui suit l'ensemble de ce texte, mais on pourrait même dire qu'il résume bien la lettre dans son ensemble. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Si on commençait avec la première partie, la première phrase résumée. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Ce qui saute aux yeux, c'est la répétition. Libéré, liberté. Et par cette phrase, on comprend que la liberté, elle est à la fois au commencement de la vie chrétienne, mais c'est aussi l'aboutissement, ce qui caractérise finalement toute la vie chrétienne. Voici comment un commentateur, John Stott, l'explique. Notre ancienne condition est représenté comme un esclavage, Jésus-Christ comme un libérateur, la conversion comme une émancipation et la vie chrétienne comme une vie de liberté. C'est la liberté d'être accepté par Dieu et d'avoir accès à Dieu par le Christ. Mais l'apôtre Paul n'en reste pas là, il donne une deuxième phrase résumée et on la découvre ici. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Pourquoi ces exhortations? Pourquoi ce langage militaire? Tenez donc ferme. Comme si la liberté, elle pouvait être attaquée, menacée, assaillie, reprise. Cette liberté que Christ nous a acquise, elle doit être gardée. Tenez donc ferme. Sinon, on retournera à l'esclavage. Et par l'expression « le joug de l'esclavage », on peut penser à une allusion à la loi de l'Ancien Testament. Mais on peut aussi penser à ceux qui ont un arrière-plan en Galatie et qui sont croyants, un arrière-plan païen. Chapitre 4, il est question négativement des principes élémentaires du monde. Il serait facile pour eux de retourner à certains principes élémentaires, comme un esclavage. On peut facilement expérimenter à nouveau une crainte, une sorte de poids dans la vie chrétienne, une insécurité. Ça remonte à quelques années, mais je me souviens d'une personne qui, après une RDS, était venue avec une expression pour dire un peu ce qu'il ressentait. J'ai l'impression, en parlant de Dieu, que je lui ai tapé sur les nerfs. Expression assez drôle quand on y réfléchit. J'ai l'impression que je lui ai tapé sur les nerfs. Comme si par les circonstances qu'il vivait, qu'il expérimentait, il avait le sentiment qu'il avait dû faire quelque chose de mal et que le regard de Dieu vis-à-vis de lui avait changé. Cette crainte, elle peut surgir justement quand on vit des circonstances difficiles ou peut-être quand on se compare à d'autres et on a l'impression que les autres se portent mieux dans la foi chrétienne. Elle peut venir, cette crainte aussi, quand on cherche à être satisfait de soi, avoir le sentiment qu'on est quelqu'un de bien. Et devant cette crainte-là, on peut avoir la tentation, effectivement, de mettre en place certaines règles, comme pour se rassurer, faire des efforts dans différents domaines, faire plaisir aux autres, mettre en place des principes éthiques étroits, faire preuve de générosité. Mais dans le but de se rassurer dans cette relation vis-à-vis de Dieu. L'affirmation de Paul ici, c'est que Christ nous a libérés. Et nous a libérés de cette crainte. Il a parlé un peu plus tôt en termes d'enfant de Dieu, d'un statut d'enfant. Et c'est avec ce statut qu'il veut que les croyants vivent, dans la sécurité d'un enfant qui se sait à son père, à sa mère, sécurisé par leur amour. Alors c'est là qu'il encourage à veiller, à être alerte, pour qu'on ne mette pas en place cela comme pour sécuriser les relations, comme s'il fallait faire quelque chose de plus pour être sûr qu'il nous aimait vraiment. Mais l'apôtre Paul, il va le faire concrètement avec ses lecteurs. Il y a deux traitements de choc. Alors l'expression, elle peut surprendre peut-être, mais vous l'avez entendu quand il a écrit ces choses. Prenez le verset 2 par exemple. « Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. » Verset 4, « Vous êtes séparés du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Et mieux encore, verset 12, « Qu'ils aillent donc se mutiler, jusqu'à se mutiler, ceux qui sèment le trouble parmi vous. » Traitement de choc, où il veut traiter de deux questions qu'on va résumer de la façon suivante. Est-ce que vous voulez être séparé du Christ, versets 2 à 6. Qui vous a arrêté dans la course, versets 7 à 12. Le premier traitement de choc, il concerne le message. L'apôtre Paul se focalise sur le message. Et dans le deuxième, il se focalise sur les messagers, ceux qui annoncent qu'en fait, on ne peut pas se contenter de la foi en Christ. Il faut sécuriser la relation avec Dieu par des règles. Pour être déclaré juste devant lui. On commence avec la première. Est-ce que vous voulez être séparé du Christ? Et l'apôtre Paul écrit la chose suivante. « Moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. » Pourquoi tant d'importance donnée à la circoncision? En lisant ce passage, vous avez peut-être l'impression que l'apôtre Paul il chipote sur les mots, sur les termes. Il donne trop d'importance à cette circoncision, il en fait toute une affaire. Et bien c'est précisément parce que les faux enseignants en faisaient toute une affaire. Cette circoncision était devenue le symbole d'un engagement à garantir qu'on va obéir à la loi de Moïse, garantir son salut devant Dieu. Et on le trouve par exemple sous la plume de Luc, quand il rédige le livre des Actes, dans le contexte d'Antioche. Il relate la chose suivante, acte 15, verset 1. « Quelques hommes venus du Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et la réponse de l'apôtre Paul ici, c'est quoi? Précisément l'inverse. « Si vous faites circoncire, vous n'êtes plus sauvés. » Ça choque? Mais c'est ce qu'il faut comprendre par « vous êtes séparés du Christ ». Christ ne vous servira plus rien. Dans les mathématiques de l'évangile, et Wissam en a parlé tout à l'heure, qui sont différentes du monde, si on ajoute à la foi en Christ nos œuvres, eh bien on soustrait Christ. Si on ajoute à Christ, à notre foi en Christ, les œuvres, eh bien on soustrait Christ. Et pour s'assurer qu'on comprenne bien les conséquences, au verset 4, vous êtes séparés du Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Si par crainte de ne pas être sauvé, on met en pratique toutes sortes de règles pour sécuriser cette relation avec Dieu, alors on montre qu'on n'a jamais vraiment eu confiance en cette grâce. Si la grâce que Jésus nous offre, elle ne suffit pas, qu'il faut ajouter des œuvres, alors ce n'est plus de la grâce. Tout simplement, c'est plus de la grâce. Alors comment vivre concrètement cette grâce? Comment est-ce qu'on va apprécier cette liberté à laquelle Jésus appelle les croyants? Verset 5, quant à nous, c'est par l'esprit que nous attendons de la foi la justice espérée. Trois choses qu'on peut dire sur la base de ce verset par rapport à cette justification future. Le fait d'être déclaré juste grâce à Jésus. Pour se savoir déclaré juste, le moyen, ce n'est pas l'obéissance, c'est la foi en lui. Pour se savoir déclaré juste, il ne va pas falloir travailler. On attend. On attend. Pour se savoir déclaré juste, c'est l'Esprit qui nous encourage dans cette attente, dans cette foi. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Imaginez deux situations. Sur le plan professionnel ou le plan des études, vous vivez une grande réussite. Peut-être sur le plan des relations, une satisfaction grande, parce qu'il y a, une belle réussite. Vous avez réussi à faire quelque chose de magnifique qui est apprécié par les gens autour de vous, et vous-même, vous l'appréciez. Qu'est-ce que vous allez considérer à ce moment-là? Est-ce que vous allez considérer que parce que vous avez eu cette grande réussite, vous êtes en quelque sorte plus juste par rapport à Dieu? C'est pas ce que nous dit ces textes de l'apôtre Paul. On sera couvert par la justice qui vient de Christ. Et donc, ça ne change pas. Inversement, vous vivez un gros échec, mais alors un gros échec. Vous avez le sentiment que votre trajectoire professionnelle, elle a subi un coup très dur. Vous ne voyez pas comment vous allez vous relever. Ou sur le plan des études, vous devez complètement changer de direction. Gros échec. Est-ce que vous allez considérer à ce moment-là que par rapport à Dieu, à cause de cet échec, vous êtes moins juste qu'avant ? Non. Selon l'apôtre Paul, elle vient, cette justice, par la foi en Jésus. Elle nous est acquise par Jésus. Et c'est confirmé avec le verset 6, car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. C'est bien la foi qui est l'appui pour se savoir juste devant Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il entend par cette foi qui opère par l'amour? Il semble mettre le doigt sur nos motivations dans ce qu'on fait. Si vous vous mettez quelques instants dans la peau d'un esclave, d'une personne qui est soumise à un maître, quelles vont être vos motivations pour agir? N'est-ce pas justement la crainte, la peur? J'ai retrouvé un témoignage qui date de cette année d'une situation d'esclavage ici en France. Et le témoignage, j'ai sélectionné quelques éléments. Je n'ai fait que travailler et obéir pendant 9 ans. Les responsables étaient toujours derrière pour surveiller, pour pousser, pour critiquer. On sentait comme si un feu nous suivait en permanence. On n'avait pas le temps de réfléchir, on tournait comme des machines. Dès qu'on pense à partir, on a très peur. L'esclavage est caractérisé par la peur, la crainte. Mais pour l'apôtre Paul, ce qui devrait caractériser les croyants, c'est une foi alimentée par l'amour. Et il n'est pas le seul à le dire. Écoutez-le sous la plume de l'apôtre Jean. Je pense que ça vaut la peine de lire ces quelques versets. « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour bannit la peur. Ce n'est pas la motivation pour agir. Et petit à petit, on voit les contrastes se dessiner. On peut voir certains termes clés. Si on se fait circoncire selon la loi, c'est parce qu'on est dans la crainte. c'est qu'on va vivre une sorte d'esclavage. Le Christ, au contraire, fait preuve de grâce. Il nous pousse à l'amour, à agir par amour. Et la foi en lui est alimentée par cet amour, ce qui nous donne la liberté. Et c'est l'occasion un peu de nous poser la question. Si nous sommes croyants ce soir, dans quelle mesure est-ce que ce que je fais, ce que je vis jour après jour, est caractérisé par cette conscience de la grâce, de son regard bienveillant sur moi et d'un amour pour lui. Ce que je le fais par amour pour lui. Un amour qui nourrit ma foi en lui et qui me permet d'expérimenter une liberté dans ma relation avec lui. Ou à l'inverse, et je pense que si on est honnête, c'est régulièrement ça qui domine. Est-ce que j'ai l'impression de devoir obtenir ce salut ? Plutôt que l'amour pour Dieu, est-ce que c'est plutôt certaines craintes, ou peut-être une amertume, peut-être une indifférence par rapport à Dieu ? Est-ce que je suis constamment en train de me comparer aux autres ? À devoir sécuriser ma relation avec lui par des choses que je vais faire. Allez, je vais faire ça, de sorte que ma relation soit sécurisée. Une contrainte permanente. Et si c'est la deuxième situation qui nous caractérise, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, comme au début, comme à la fin, comme au milieu, c'est constamment en revenant vers Jésus, en se souvenant constamment de ce qu'il a fait par grâce, un amour démontré, un statut dont on se souvient qu'il nous a donné et qui sécurise notre relation avec lui. Et une motivation pour faire tout ce qu'on a à faire, qui est l'amour justement et la foi en lui. Qui vous a arrêté dans la course ? C'est la dernière question. Qui vous a arrêté dans la course ? Lors du dernier Tour de France, il y a eu une chute assez spectaculaire dans la troisième étape qui a eu des conséquences pour bon nombre de coureurs. Et plusieurs ont dû abandonner la course à ce moment-là. Mais aussi, ils ont dû exceptionnellement arrêter la course pendant 1h15 parce qu'il y avait eu tellement de dégâts. Et là, sur la prochaine diapo, vous demandez peut-être ce que c'est. Il s'agit en fait d'un tweet qui a été envoyé par la suite pour décrire ce qui s'est passé au moment de l'accident. Dans les différentes lignes avec les couleurs, ça représente ces coureurs justement. Et la hauteur définit la vitesse. Et on voit d'une part la pagaille, mais aussi l'arrêt brutal à différents moments pour chaque coureur. Ils ont dû, alors qu'ils roulaient à 40, 50, ils ont été stoppés net à cause de cet accident. Un accident, parce que c'est bien un coureur qui a glissé et qui a entraîné les autres. Et donc, lui-même en a été victime. L'apôtre Paul, lui, parle d'une responsabilité engagée dans ceux qui arrêtent la course des Galates, des croyants de Galatie. Écoutez-le quand il met en évidence la problématique. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité ? Il reprend cette image de la course qu'il reprend à bon nombre de reprises dans ses lettres pour décrire la vie chrétienne. Et il décrit cette pagaille, cet arrêt. Il s'agit d'une responsabilité engagée et d'une responsabilité engagée par ces faux enseignants. Et en quoi est-ce qu'ils ont stoppé les croyants de Galatie ? Vous voyez l'expression ? Vous empêchant d'obéir à la vérité. Vous empêchant d'obéir à la vérité. On a mentionné cette crainte qui a traversé les siècles avec un message de grâce. La crainte qui consiste à dire, si je crois en Jésus, alors je peux faire le mal que je veux. Alors venez dimanche prochain, le texte de dimanche prochain en parlera en profondeur. Mais déjà ici, on voit quelque chose d'intéressant. On a dit au départ que Christ nous a libérés et il veut nous permettre de vivre dans la liberté. On commence par la foi, cette course par la foi en Jésus, on la poursuit par la foi en Jésus. Mais il résume cette course en parlant d'obéissance à la vérité. Et l'assurance de l'apôtre Paul, c'est que les croyants vont obéir à la vérité. Ce n'est pas simplement croire en la vérité, comme s'il suffisait de croire. Il y aura une cohérence entre ce que les croyants croient, leurs convictions et leur comportement. Il y aura une cohérence entre les deux. Ils obéissent à la vérité. Ce n'est pas simplement croire à la vérité, c'est obéir à la vérité. Et il est confiant dans les Galates, lorsqu'il leur écrit au verset 10, que c'est ce qu'ils vont faire. « Moi, j'ai confiance en vous dans le Seigneur. Je sais que vous ne penserez pas autrement. » Mais devant ce trouble qui a été semé par ce message des faux enseignants, un message qui ne venait pas de la part de Dieu, verset 8, il dénonce ce qui cause ce trouble. Il utilise cette image d'une pâte qui lève à cause d'un peu de levure, un peu de levain. Autrement dit, les effets sur tous les croyants d'un message qui est destructeur. Le message, c'est quoi ? C'est un message qui consiste à ajouter à l'œuvre de Christ certaines règles, comme la circoncision. Je m'engage à suivre certaines règles pour assurer ma relation avec Dieu. Et ça, la circoncision, finalement, c'est assez flatteur. Ça signifie que les êtres humains contribuent à leur salut. Ils participent. Mais le message que l'apôtre Paul, c'est-à-dire Christ crucifié, comme on l'a entendu, et on l'a fait par le repas du Seigneur rappelé tout à l'heure, ça, c'est pas flatteur. Si le Christ a dû être crucifié, c'est donc qu'il a dû aller jusqu'à la mort, à notre place, parce qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Et ça, c'est un scandale, ça, c'est un message pour lequel l'apôtre Paul est d'ailleurs persécuté. On termine avec cette phrase qui peut choquer. « Qu'ils aillent donc jusqu'à se mutiler ceux qui sèment le trouble parmi vous. » Se mutiler. Est-ce que c'est une allusion au fait que ces faux enseignants, ils encouragent la circoncision des hommes ? Ou alors c'est une allusion à des incisions qui étaient pratiquées dans les cultes païens, dans certains cultes païens. Difficile à dire. Mais la radicalité de ces paroles, elle doit nous interpeller. Et en particulier dans un contexte comme le nôtre, où on est plutôt tolérant par rapport à toutes sortes de messages, ça doit nous interpeller ce qu'il dit là. Pourquoi est-ce qu'il est aussi dur ? Pourquoi une dénonciation si forte ? N'est-ce pas parce qu'il est profondément saisi, attristé par l'enjeu ? Parce que l'enjeu, pour les croyants, c'est qu'ils soient unis à Christ et non pas séparés de lui. L'enjeu, c'est qu'ils soient au bénéfice de la grâce et non pas déchus de la grâce. L'enjeu, et il est de taille, c'est qu'ils puissent vivre dans cette liberté que Christ leur a apportée et non pas dans le trouble, l'incertitude, la crainte. Et si nous aussi, on pouvait voir l'enjeu, et je pense à moi en particulier, en tant que pasteur, quand un message est tordu, quand il s'agit d'ajouter certaines œuvres pour sécuriser notre relation à Dieu, est-ce que je m'en indigne comme lui s'en indigne ? Est-ce que, en entendant un autre message, est-ce que vous allez vous en indigner comme lui s'en indigne ? Parce que l'enjeu est de taille. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons reconnaître que souvent nous ne vivons pas de cette liberté que Christ nous a accordée, mais plutôt dans la crainte, dans le besoin de faire certaines choses pour sécuriser notre relation avec toi. Accorde-nous au contraire, parce que nous sommes unis à Jésus, parce qu'il nous a libérés, de pouvoir vivre les choses que nous avons à vivre, ce que tu veux que nous vivions par amour pour lui. Permets-nous, Seigneur, de voir les enjeux d'un message qui ajoute à l'œuvre de Christ. Permets-nous, lorsque vient le moment, de le dénoncer. Et nous te prions cela au nom de Jésus. Amen.